marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous ?
Israël, ses stratégies et ses alliances.
La date fixée pour l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, le 14 mai, est symbolique. Elle marque l'anniversaire de la création de l'État d'Israël en 1948. Pour les Palestiniens, c'est la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe en arabe, qui a poussé plusieurs centaines de milliers d'entre eux à l'exode. Ce transfert de l'ambassade devait initialement prendre au moins 2 ans, selon la Maison-Blanche. 1 an au maximum, avait déclaré Benjamin Netanyahou.
Le mai de tous les dangers, titre le quotidien Yedot Aronot. Le gouvernement Netanyahou se félicite bien sûr de l'installation dans des délais records de l'ambassade américaine à Jérusalem et il attend que Donald Trump dénonce ce soir l'accord nucléaire avec l'Iran. Les intentions du président américain ne satisfont pas pourtant totalement le gouvernement israélien. Si sa volonté semble être de renverser à moyen terme le régime de Téhéran, il voudrait aussi retirer à court terme ses troupes de Syrie. Israël s'en trouverait exposé davantage encore à de nombreux dangers. Livraison à la Syrie de nouveaux missiles antiaériens de Moscou, déploiement du Hezbollah, qui vient déjà de remporter au Liban une importante victoire électorale, pire, implantation de bases iraniennes. Netanyahou répète son intention d'intervenir en Syrie si nécessaire. Il vient d'obtenir de la Knesset la possibilité de déclarer la guerre avec le seul soutien de son ministre de la Défense sans même avoir besoin de la majorité de son cabinet. 70 ans après avoir obtenu son indépendance, alors que les Juifs sont passés de moins d'un million à 6,5 millions, qu'ils s'enorgueillissent d'une des armées les plus performantes du monde, l'État d'Israël vit toujours dans une fragilité difficilement soutenable. L'habileté de Netanyahou est d'ailleurs de jouer sur cette peur en la combinant avec la mémoire de la Shoah. Mais en même temps qu'il crie constamment au loup, il renouvelle ses stratégies. Vis-à-vis des alliés traditionnels, qui ne sont pas nécessairement aussi sûrs qu'on le dit, vis-à-vis de l'Arabie saoudite, qui aurait pu rester un ennemi intrinsèque, mais qui a besoin aujourd'hui, paradoxalement, d'un renforcement d'Israël. Vis-à-vis de l'Inde, car il faut maintenant jouer très en profondeur dans le continent asiatique, au moment où l'axe Téhéran-Moscou pourrait se prolonger en Chine. Et puis, il y a l'arme nucléaire. Israël y a créé son programme avant même que le Shah d'Iran n'y songe. Et quand Ben Gurion s'était dit prêt à y renoncer en 1966, Dayan lui aurait répondu « Aucune alliance ne peut remplacer l'arme nucléaire ».
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Frédéric Ancel, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Qui enseigne à Sciences Po ces questions géopolitiques du Proche-Orient, qui réédite chez Autrement son atlas géopolitique d'Israël. Alors, on va commencer un petit peu avant 1948, dont on célèbre l'anniversaire, et entendre un écho de ce qui s'est passé à New York quand a été voté, vous voyez le lapsus, Frédéric Ancel, vous allez certainement me faire des reproches quant à lui, quand a été votée la résolution 181 qui concrétisait à terme la naissance d'Israël.
Iran, no. Irak, no. Lebanon, no. Poland, yes. Saudi Arabia, no. Syria, no. Turkey, no. Ukraine, yes. South Africa, yes. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. The United States, yes. 4, 6.
The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions.
Ainsi, ces choses faites, à l'ONU, des peuples libres se sont prêtés à cette honte qui est le partage de la Palestine. Les nations qui appuient le sionisme ont déclaré la guerre aux pays arabes. Les pays arabes lutteront jusqu'au dernier homme. Ainsi vient de s'allumer un incendie qui risque d'entraîner le monde dans le plus sanglant des conflits.
Un notable palestinien, le docteur Goury, en 1947, oui, l'hostilité des pays arabes est insurmontable, terre volée, disent-ils. Enfin, même s'ils ne fournissent pas d'armes très nombreuses aux forces palestiniennes, préférant les garder pour leurs armées propres. Ben Gourion, le père fondateur, il pensait que c'était insurmontable.
Il pensait que c'était insurmontable sans à l'extérieur. C'est-à-dire que Ben Gourion, dès qu'il prend la tête de l'exécutif du mouvement sioniste en 35 et 36, est loyal vis-à-vis de la Grande-Bretagne, de la puissance mandataire, contrairement d'ailleurs au mouvement nationaliste sioniste, avec notamment Jabotinsky, qui lui veut un État tout de suite et chasser les Anglais. Ben Gourion sait que le rapport de force n'est pas favorable aux 500 à 600 000 juifs qui existent à l'époque en Palestine face à un peu plus d'1 200 000 arabes. Il connaît sa géographie. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, comme dira beaucoup plus tard mon maître en géopolitique Yves Lacoste. Et donc Ben Gourion, jusqu'en 46-47, est évidemment loyal le temps de former de futurs soldats et puis surtout de s'approvisionner en armement.
La Russie, ainsi que la Biélorussie et l'Ukraine, Staline disposait des trois votes. Vote oui. Pourquoi a-t-elle voté oui? Parce que elle était heureuse de voir l'influence britannique reculer. La Grande-Bretagne s'abstient en 1947. Et jusqu'à quand la Russie a-t-elle été favorable et comment s'est-elle éloignée d'Israël?
Oui, c'est la première explication. Limiter partout et en tout temps le pouvoir impérial, non seulement d'ailleurs de la Grande-Bretagne, mais de la France. Mais aussi autre chose. Staline pensait, et c'était l'une de ses rares graves erreurs d'après 45, il pensait que le mouvement sioniste et donc le futur État d'Israël, le Yeshuv, comme on l'appelait à l'époque, le foyer national, allait basculer à l'Est. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà à l'époque 230 kibboutzim, mais ce sont, comme vous le savez, des communautés parfaitement marxisantes. Par ailleurs, au moins un parti politique israélien, le Mapam, fait encore à l'époque, au début des années 50, une quinzaine de députés sur 120, et ce parti compte des personnalités qui souhaitent ouvertement s'allier à l'URSS. Hein. Pensez bien qu'en 53, le 5 mars, lorsque meurt Staline, sur la moitié à peu près des kibboutzim, eh bien, vous avez le drapeau en berne, et les gens pleure la mort de Staline. Il faut bien comprendre que jusqu'aux années 70, vous avez au moins un général et un homme politique influent, Moshe Sneh en l'occurrence, qui souhaite s'allier à l'URSS. Donc Staline pensait que le mouvement sioniste basculerait. Ça n'a pas été le cas puisque Ben Gourion pensait qu'il fallait rester résolument à l'Ouest. Je vous dirais que Staline arrête de soutenir Israël très rapidement. Fin 49, c'est terminé. Et début 50, les premières persécutions commencent sur ce qu'il appelle le sionisme.
Et puis 1956, la crise de Suez, le desserrement de l'amitié va continuer. Si on prend cette fin des années 50, ce début des années 60, Israël échange des armes avec l'Iran du Shah, enfin dans le sens de l'exportation, avec la France de la 4e République et même du début de la 5e dans le sens de l'importation. Et bien évidemment, pense le commun aujourd'hui avec les États-Unis dès le départ.
Or, le commun se trompe, comme souvent. De 48 à 67, les États-Unis ne sont qu'un État ami d'Israël, ami diplomatiquement, ne soutiennent pas systématiquement d'ailleurs Israël, ne vendent que très peu d'armement à l'État juif, et pire que ça, ou mieux que ça, c'est selon, sur le plan du nucléaire, jusqu'à Kennedy et Johnson, en fait, hein, les Américains vont s'opposer fermement à toute acquisition par Israël de toute possibilité un jour d'acquérir la bombe. Mais je vais vous dire, c'est pratiquement jusqu'à aujourd'hui la position officielle des États-Unis. Et c'est bien évidemment la France en 1956-57, cette histoire est bien connue, qui va permettre à Israël de développer ce qui sera plus tard ses capacités nucléaires.
Ah, la France de la 4e République qui se servait comme truchement du jeune Shimon Peres qui, devenu après tant et tant d'aventures et de mésaventures politiques, président de l'État d'Israël, s'exprimait ainsi en 2008 au micro de Frédéric Barrère.
Monsieur le Président, Israël est-il une puissance nucléaire grâce à l'aide de la France?
La France nous a aidés à construire une centrale nucléaire. Cette centrale a suscité beaucoup de rumeurs et a créé la suspicion qu'Israël possède la bombe. Moi, je peux vous dire que si cette suspicion est dissuasive, eh bien nous, ça nous suffit. Je ne dois pas aller plus loin. La France nous a aidés au sens large du terme pour empêcher des guerres et même abréger des guerres. Nous n'avons jamais dit que nous serons les premiers à introduire l'arme nucléaire au Proche-Orient. Nous n'avons jamais dit cela et nous ne le dirons pas. Amir Moussa, le président de la Ligue arabe et ministre égyptien des Affaires étrangères, avec lequel j'étais très ami, m'a dit un jour « Shimon, nous sommes amis. Emmène-moi à Dimona, je veux voir ce qu'il y a là-bas. » Je lui ai dit « Mais Amir, tu es devenu fou. Si je t'emmène à Dimona, tu verras qu'il n'y a rien. Tu arrêteras d'avoir peur et alors qu'est-ce que je vais faire ?»
Dimona, Frédéric Ansel.
Oui, c'est le lieu du premier réacteur israélien, très précisément Ein Bokeh. D'ailleurs, c'est au nord du Negev, donc au sud d'Israël. Et Dimona, c'est là que se trouvent les installations nucléaires de l'État hébreu.
J'aime bien votre indicatif et qu'il n'est pas inconditionnel.
Ben Gourion aurait-il, en 1966, en échange d'un accord militaire officiel avec les États-Unis, proposé de renoncer au projet nucléaire?
Non, pour deux raisons. D'abord parce qu'en 66, Ben Gourion n'est plus au pouvoir. Il n'est plus depuis 3 ans, d'une part. Et d'autre part, Ben Gourion savait que le programme était suffisamment avancé pour ne pas y renoncer. Et c'est d'autant plus vrai que si Kennedy, jusqu'à sa mort, en 63, avait exercé des pressions sur Israël contre cela, à commencer d'ailleurs par Eisenhower en 56, 57, 58, eh bien, Johnson le faisait moins. Donc il y avait moins de pressions américaines à la fin des années 60, donc non, Ben Gourion n'a pas proposé ça.
L'année d'après, 1967, Johnson, il est empêtré dans la guerre du Vietnam et l'armée israélienne, que jusqu'ici les États-Unis regardaient un petit peu de surplomb, se débrouille seul pour gagner la guerre des 6 jours. Ça commence à interroger, au-delà de la communauté juive américaine, une partie de l'opinion aux États-Unis, alors qui, en 1976, est transporté par l'affaire du raid d'Entebbe, donc un vol Air France vers Israël est détourné par le FPLP, une faction palestinienne, et puis aussi par des militants de la fraction armée rouge allemande, et il se retrouve sur un aéroport à Entebbe, en Ouganda, lieu historique peut-être pour le sionisme numéro 1, et le dictateur local, Amin Dada, accueille ainsi les otages.
Je vous souhaite la bienvenue en Ouganda. Sachez que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin que vous ayez les commodités nécessaires. Je suis intervenu auprès des Palestiniens pour qu'ils vous permettent de vous installer plus confortablement ici. Je subviendrai à vos besoins en nourriture et en diverses commodités. Je voudrais arriver à régler cette histoire dans les plus brefs délais. Les Palestiniens ne sont pas des gens inhumains. J'ai moi-même vu en visitant Damas. Oui, les Juifs étaient bien traités. Et j'ai visité une synagogue. Alors mettez-vous à l'aise, reposez-vous. Mais je vous en prie, ceci est très important. C'est très très important. N'essayez pas de fuir. N'essayez surtout pas de vous évader. Car les Palestiniens ont placé des explosifs tout autour de ce building, hein? Ceci est très important. Mais à part ça, vous êtes mes invités ici. J'ai l'intention d'organiser votre libération aussitôt que possible. Soyez encore les bienvenus. Ici, vous êtes chez vous.
Oui, mais les Israéliens sont les plus malins, les plus forts. Ils vont organiser un raid de libération. C'est un des 3 films, il y en aura bientôt 4, consacrés à Entebbe, opération Thunderbolt. Frédéric Ansel.
Oui, le dernier en date vient de sortir il y a quelques jours, je ne l'ai pas encore vu. Entebbe, oui, c'est certainement le raid le plus spectaculaire de l'armée israélienne. Il est totalement réussi. Le seul soldat israélien qui tombe n'est autre que Yoni Netanyahu, le frère de l'actuel Premier ministre israélien, et qui était déjà considéré d'ailleurs comme un héros en Israël à l'époque. Alors, ce son est doublement amusant, parce qu'effectivement, ça rappelle quand même que l'Ouganda avait été proposé par Sa Majesté en 1903, par Chamberlain en l'occurrence, un ministre des Affaires étrangères britannique, à Herzl en guise de refuge provisoire, dans le cadre des grands pogroms de Russie. Mais il faut rappeler que Herzl avait refusé, le mouvement sioniste avait refusé l'Ouganda. Et puis, C'est amusant aussi parce que aujourd'hui l'Ouganda est l'un des pays fer de lance de la nouvelle diplomatie israélienne en Afrique subsaharienne. Là, on a entendu Idi Amin Dada, qui était un dictateur cruel et ubuesque, qui avait lui-même commencé sa carrière très favorablement au mouvement sioniste, et puis alors qui avait inversé radicalement ses positions et qui était devenu très fanatiquement pro-palestinien.
Ces années 1970 sont à l'ONU, sont pour l'ONU, pour Israël à l'ONU, pardon, une période de recul. L'implantation, par exemple, vous parliez de l'Afrique qui avait eu lieu un moment, notamment en Afrique francophone dans les années 60, doit être interrompue et on parle d'un isolement grandissant d'Israël. On va, si vous le voulez bien, passer aujourd'hui, nouvelle stratégie d'alliance, beaucoup moins d'isolement qu'on ne l'imagine, à la situation présente. C'est le festival de Cannes, vous savez qu'il y a un ministre saoudien de la culture. Costume, cravate, hein. Une autorité saoudienne de la culture. Non, je vous apprends ça, Frédéric Ancel. Et tous ces gens se déplacent au Festival de Cannes, puisque le prince héritier d'Arabie Saoudite a annoncé l'ouverture de quelque 350 cinémas, soit 1500 écrans, dans un délai rapproché, Vision 2030, en Arabie Saoudite. Et qu'une première salle a déjà ouvert à Riyad avec au programme Black Panther. Pourquoi est-ce qu'on passe ça? Pas pour donner un écho supplémentaire à ce chef-d'œuvre du cinéma, mais pour marquer le changement d'attitude de l'Arabie Saoudite, notamment vis-à-vis d'Israël.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
On aurait cru que l'Arabie Saoudite piétine. Non, non, l'Arabie Saoudite change. Alors, les alliances, les stratégies d'Israël, mouvantes, transformistes, avec Frédéric Ancel, auteur notamment d'un atlas géopolitique d'Israël. Vous ne voulez pas croire que l'Arabie Saoudite change, mais Netanyahou, le premier ministre israélien, en tient le plus grand compte. C'est comme providentiel.
Oui, si on veut, parce que l'Arabie Saoudite souhaite surtout casser dans toutes les mesures possibles et de tous les moyens, par tous les moyens possibles, l'Iran, hein, qui est son véritable rival. Alors, l'ennemi de mon ennemi est, comme vous le savez, en général mon ami, donc on se rapproche d'Israël. Mais la capacité saoudienne à apporter quelque chose dans la corbeille de mariage, très franchement, on ne voit pas. En revanche, Netanyahou est effectivement intéressé à dire ourbi et orbi, mais regardez, en réalité, le monde arabe n'est pas, nous est pas opposé, il n'y a que les méchants qui sont opposés à nous. Regardez, l'Égypte et la Jordanie sont déjà en paix depuis respectivement 78 et 94, ce qui d'ailleurs est exact. D'autres États s'entendent très bien avec nous, je pense notamment au Maroc, aux Émirats. Bon, voilà maintenant que nous arrive l'Arabie Saoudite. Mais fondamentalement, l'Arabie Saoudite ne peut pas, comme d'ailleurs aucun État arabe, constituer un allié sérieux et solide, car il n'en a pas la capacité, si tant est qu'il en aurait réellement la volonté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Ben Gurion, dès 48, avait établi sa stratégie dite de la seconde ceinture, derrière la première ceinture des États arabes, dont on voit sur n'importe quelle carte du Proche-Orient qu'elle entoure Israël. Et alors, ça n'avait pas marché, mais c'était intéressant. Il s'agissait de jouer sur la Turquie, sur l'Iran, que vous avez évoqué tout à l'heure, et sur l'Éthiopie en Afrique. Et de fait, dans les années 60-70, et puis ensuite un petit peu brièvement à la fin des années 90, la Turquie a été, dans une certaine mesure, partenaire, c'est vrai. L'Iran, oui, dans les années 60-70, jusqu'à l'arrivée de Khomeini en 79 au pouvoir. Après, bien sûr, ça s'est achevé, encore que. Et puis l'Éthiopie, oui, ça, l'Éthiopie, c'était totalement symbolique. Mais en réalité, fondamentalement, ça a échoué. C'est-à-dire que, si vous voulez, Israël n'a jamais réussi à se doter d'un véritable allié politique et militaire derrière les États arabes, et le paradoxe paradoxe de l'effondrement du monde arabe au sens géopolitique du terme ces dernières années, parce qu'on a affaire à une vraie balkanisation qui vaut effondrement du monde arabe, c'est que au sein de ce monde-là, face à l'Iran, eh bien oui, vous avez des États qui rejoignent le giron, allez, on va dire israélo-américain, mais encore une fois, sachons raison garder, dans la corbeille de mariage, franchement, les Saoudiens ne peuvent pas apporter grand-chose.
Si on regarde maintenant le vaste monde, ce qu'on va appeler le troisième cercle et l'Assemblée générale de l'ONU, ou bien les agences connexes comme l'UNESCO, les crises entre Israël et l'UNESCO n'ont pas manqué. L'isolement qui a semblé gagner du terrain pendant un moment semble contenu. Et est-ce que ça tient à la puissance économique d'Israël, à ce qu'elle peut apporter dans les corbeilles de fiançailles? Des liens se sont établis avec des pays qui les avaient vus se rompre.
Alors je ne dirais pas que c'est grâce à l'économie, mais d'abord vous avez raison de dire que l'isolement, il est contenu. Non seulement il est contenu, mais on a affaire à un rollback en fait de l'isolement. Parce que dans les années 70, que vous mentionniez aussi tout à l'heure, on avait sur un certain nombre de votes, deux États qui votaient en faveur d'Israël sur, à l'époque, environ 150. Les États-Unis et puis la Micronésie. Bon, et puis se sont ajoutés quelques archipels pacifiques, obéissant systématiquement à Washington. Mais lors des derniers votes très importants sur l'État de Palestine, sa reconnaissance comme membre permanent, non, finalement, ça n'a pas abouti, et pour cause, sur le mur barrière de sécurité, sur la guerre avec le Hamas, etc., ou sur Jérusalem. Eh bien, vous avez systématiquement, sur 193 États, une dizaine, une quinzaine qui votent en faveur d'Israël, ce qui n'est pas rien, ce qui est beaucoup plus que dans les années 70. Il n'y a plus que les États-Unis. Hein. Vous avez des puissances tout à fait sérieuses comme le Canada, l'Australie, l'Allemagne, parfois, qui votent en faveur d'Israël. Et puis, vous avez une grosse trentaine d'abstentions. Et si vous voulez, l'abstention, lorsque un État arabe demande à ce que la Palestine soit membre permanent, écoutez, enfin, membre des Nations Unies, ça veut dire non en réalité. Et là, vous avez quelque chose qu'on oublie trop souvent, c'est toute l'Europe centrale et orientale, qui a basculé donc hors du communisme, évidemment, après la chute du mur dans les années 90, et qui vote très souvent, soit en s'abstenant, soit en faveur d'Israël, avec un État.
Tel ou tel pays va installer son ambassade à Jérusalem.
Ah, mais la République tchèque. Non, mais la République tchèque est littéralement inconditionnelle. Ce qui fait comme une dizaine d'États. Si vous ajoutez à cela une quinzaine d'États d'Afrique subsaharienne qui ne craignent plus un embargo arabe, ou qui ne craignent plus d'acheter du pétrole lorsque le baril est à 120, 130 ou 150 dollars.
Et qui ne disent plus qu'Israël est le dernier des pays colonialistes?
Non, ils ne le disent plus. Ils ne le disent plus dans l'Afrique des Grands Lacs. Le Rwanda, notamment, pour des raisons notamment mémorielles, ne le dit plus. Le Rwanda est littéralement allié aujourd'hui d'Israël. Des pays comme l'Éthiopie, l'Ouganda qu'on a évoqué, le Kenya, le Togo, le Congo, sont des États qui reviennent effectivement à ce qui avait existé, vous le disiez, dans les années 50-60.
Avec des ambassades d'Israël?
Ah bien sûr, avec des ambassades, bien sûr. Des ambassades et même des forums économiques, politiques et pratiquement stratégiques entre Israël et ces États. On l'a encore vu ces dernières années avec un Netanyahou dans l'Afrique des Grands Lacs.
Alors à propos des visites de Netanyahou, il y en a une qui a duré très longtemps, il y a peu de mois, et qui a eu lieu en Inde auprès du Premier ministre Modi.
Les Indiens et les Israéliens ne connaissent que trop bien la douleur des attaques terroristes. Nous nous souvenons de la sauvagerie horrible à Bombay. Nous serrons les dents. Nous battons en retour. Nous n'abandonnons jamais. Et ça me remplit d'espoir, cette nouvelle ère de relations indo-israéliennes qui va rapporter des bénéfices sans précédent au peuple d'Inde et d'Israël, ainsi qu'à toute l'humanité. Et enfin, et c'est peut-être l'annonce la plus importante que je vais faire ici, mon ami Narendra, quand vous voulez faire une classe de yoga avec moi, c'est un peu un grand écart, mais je serai là.
Caresse mutuelle. C'est fou d'ailleurs ce qu'on raisonne maintenant avec le changement des rapports de force en axe inédit. Le président Macron, il parle de l'axe Indo-Pacifique, Canberra, Nouméa. Et alors, qu'est-ce que c'est cet axe avec l'Inde?
Alors là, pour le coup, on est non seulement sur les représentations géopolitiques, mais aussi sur l'économie. Les représentations sont les suivantes. Vous avez un parti nationaliste au pouvoir, le Likoud en Israël, un parti nationaliste au pouvoir en Inde, BJP, et les deux s'entendent pour considérer que l'islamisme radical est le fléau absolu. Alors après, derrière ce qu'on met islamisme radical, ça évidemment, chacun fait sa tambouille dans sa propre région, mais l'Inde en proie à l'hostilité du Pakistan et en guerre permanente, larvée permanente au Cachemire, jouent sur cela, et les Israéliens bien sûr aussi. Après, l'Inde a chaque année, depuis une bonne dizaine d'années, a augmenté de 25% chaque année, hein, depuis une dizaine d'années, son budget militaire. Et Israël en profite grassement. Pourquoi ? Parce qu'Israël est capable de vendre des matériels à très haute valeur ajoutée, en général un petit peu moins cher que ce que font les Américains ou les Européens. Et par conséquent, pour l'Inde, qui ne met jamais ses œufs, tous ses œufs dans le même panier, c'est quelque chose de très positif. Donc là, vous voyez, on a un accord pragmatiquement économique, hein, ou militaro-économique, mais qui se nourrit également de représentations croisées tout à fait intéressantes.
Alors, c'est la recherche d'un troisième cercle, c'est la recherche d'une alliance en profondeur dans le continent asiatique, de même que l'autre axe, Téhéran-Moscou. Enfin, on peut peut-être discuter de la réalité de cet axe. Il pourrait se prolonger jusqu'à la Chine, lui.
Oui, c'est juste. Alors, vous avez raison de parler d'axe entre Téhéran et Moscou, mais ce n'est pas une alliance. Hein. Il ne faut pas galvauder les termes en géopolitique. Il n'y a pas d'alliance militaire entre Moscou et Téhéran. Il y a en revanche un partenariat à la fois diplomatique, stratégique et économique. On le voit dans le Caucase via la modeste Arménie et on le voit bien sûr en Syrie. Ça ne veut pas dire, je le répète, qu'il y a une alliance militaire. Donc, on est là sur des relations qui sont entre Israël et la Russie à la fois ambivalentes et très bonnes.
Si la Russie devait choisir un jour entre Israël et l'allié iranien dont elle a besoin pour conforter sa réinstallation dans la région.
Alors je vous dirais que Poutine fait tout pour ne pas choisir. C'est-à-dire que sa première visite en Israël date de 2005, il y en a eu plusieurs depuis. Netanyahou va très régulièrement rencontrer son homologue, enfin le président russe à Moscou, et ils s'entendent pour qu'il n'y ait pas d'accident dans l'espace aérien syrien, parce qu'il pourrait y en avoir très facilement. Par ailleurs, il vous aura pas échappé que ces dernières années, les Israéliens ont frappé de plus en plus en profondeur dans l'espace, enfin dans l'espace terrestre, et en empruntant l'espace aérien syrien, et maintenant les Israéliens frappent carrément des bases militaires iranienne. Bah écoutez, les Russes ont la capacité de manière tout à fait évidente d'empêcher des chasseurs-bombardiers israéliens d'emprunter cet espace, ils ne le font pas. Vous voyez ? Donc on est là sur une véritable, non pas une ambiguïté, une ambivalence russe entre ces deux partenaires qui sont à peu près au même niveau d'ailleurs. Hein. Les Russes achètent beaucoup de produits israéliens et vice-versa.
Et puis les deux tempéraments de Netanyahou et de Poutine sont faits pour se compléter.
Oui, parce que les deux comprennent surtout les rapports de force et ils les comprennent bien et ils les appréhendent bien et ils jouent beaucoup là-dessus. Et j'ajoute un point important qui est démographique et sociologique. Il y a environ 1,5 million de russophones en Israël. Ils ont un poids tout à fait considérable. Ils participent à la coalition nationaliste actuelle. Et le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, qui est un proche de Netanyahou, mais surtout très proche de Poutine, ancien citoyen moldave, qui est parfaitement russophone, lui va jusqu'à, il pousse l'insolence jusqu'à menacer Obama, il y a quelques années de cela, lorsque le président américain exerçait des pressions sur Israël, en lui disant, en substance, écoutez, vous autres Américains, vous nous avez soutenus depuis 67, c'est très bien, vous n'êtes pas les seuls alliés potentiels d'Israël dans le monde, il y en a d'autres. Et là, Lieberman, évidemment, évoquait la possibilité un jour d'une alliance avec la Russie.
Alors, vous reviendrez avec d'autres interlocuteurs tout à l'heure, à 18h dans l'émission Un jour dans le monde de Fabienne Sintès sur toutes ces questions présentes, Frédéric Ancel. Mais la question du nucléaire, bon, Israël sera content si Donald Trump dénonce l'accord de Vienne. En même temps, Israël doit se demander, mais qu'est-ce que c'est que cette administration qui change sans arrêt de pied ? La Corée du Nord, d'ailleurs, peut se poser la même question. Faire une alliance avec une administration américaine qui demain ne sera plus là et celle qui la remplacera prendra le contre-pied de la première.
Oui, c'est très compliqué. C'est même compliqué d'ailleurs au sein même de cette administration parce que Trump n'est pas un ami de toujours d'Israël, contrairement à ce que croient beaucoup de gens. Au début de sa campagne électorale, d'ailleurs, il n'en parlait pas. Il n'est devenu ami d'Israël qu'à la fin de sa campagne électorale. Voilà quelqu'un qui d'ailleurs ne s'intéressait pas au Moyen-Orient, sauf pour y construire des buildings ou ça en Arabie Saoudite, certainement pas en Israël. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement changeant, dont se méfient d'ailleurs les planificateurs et plusieurs ministres israéliens, et à mon avis d'ailleurs, dans son grand pragmatisme, Netanyahou également. En revanche, les Israéliens savent pouvoir compter sur une opinion américaine qui compte dans ses rangs de plus en plus d'évangéliques. On est entre 75 et 80 millions de gens qui s'affirment évangéliques dans le monde, et à votre avis Jean Lebrun, pourquoi le président américain il n'est pas un pilier d'église à décider de transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, si ce n'est pour favoriser sa future réélection auprès des évangéliques qui, eux, ne jurent que par Israël, par le sionisme et par Jérusalem.
Merci à vous, Frédéric Ansel. L'émission était préparée par Elinka Negulesco, Frédéric Martin et Franck Olivard. La réalisation, Audrey Ripouille. La technique, Christian Gratalon.